ils n'ont pas l'idée de gagner par tous les moyens. Ils jouent aussi pour le plaisir, ça existe ça, même au niveau d'une équipe de France.
Eh bien, ils jouent surtout pour le plaisir et je veux que toujours, que dans chaque match, il y ait ça de mis en avant. Ce sont des mots qui paraissent un peu enfantins maintenant, de parler de plaisir, de satisfaction, de bonheur, mais personnellement, je veux toujours les mettre en avant et je crois que c'est souvent ce qui se passe avec nous.
Michel, immortel, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Vous nous disiez les mots bleus, vous le faisiez avec vos yeux. Premier titré, dernier poète, petit short, caouet, costard ou bien survêt. Vous étiez le papa des Français. Votre fils préféré arborait le 10 et portait le même prénom que vous, Michel. Yolan, Manu, Francky et Fabien, amis de 30 ans, vous parlent de football, de culture et de vintage. C'est le FC Vintage. Salut Manu!
Salut à tous!
Salut Fabien!
Salut les amis!
Salut Francky!
Salut!
Les garçons, aujourd'hui on veut rendre hommage, ça faisait déjà un petit moment qu'on en parlait au sein de l'équipe. On voulait rendre hommage à un grand monsieur du football français, peut-être un peu trop souvent oublié à notre goût. C'est Michel Hidalgo qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an. C'est une émission qu'on fera en deux parties. On va faire une première partie où on va déjà parler des débuts de Michel Hidalgo. On s'arrêtera à peu près dans les années 80, hein, c'est ça les gars. Et puis ensuite, on arborera une partie qui est, on va dire, la partie la plus croustillante de Michel Hidalgo, avec forcément Séville et l'Euro.
La plus épique.
Alors, moi déjà, la première question que j'ai envie de vous poser par rapport à ce grand monsieur qui était Michel Hidalgo, c'est, là je vous donne son nom comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
Bah moi c'est l'Euro 84, la première victoire, quand il est lancé dans les airs par les joueurs, après la victoire. Puisque c'était la première victoire en sport co au niveau du foot.
Fabien ?
Ben moi écoute, c'est l'histoire avec le Koweït. Avec le fameux chèque, en plus ça, il s'appelle chèque Fad. Enfin, ça aurait pu être chèque Fab, mais non.
Ah ouais, je savais que t'allais la faire, celle-là. À moins que t'aurais préféré peut-être encaisser le chèque. Te connaissons ouais, un petit peu, hein.
Et non, mais moi j'ai ce moment-là en tête parce que c'est vraiment un moment. En plus, c'est un trait de son caractère en fait où tu vois que le gars il veut rien lâcher parce que. Bon, ils sont à 3-1, ça fait un 4-1, mais si tu veux, il aurait pu très bien se dire, allez, on laisse passer, mais lui, il a vraiment, vraiment voulu, et il comprenait pas, et moi, j'aurais été comme lui. Je veux dire, après, tu peux pas faire ce que tu veux sur un terrain, enfin, c'est comme ça, quoi, c'est la loi du jeu.
Mais il est surréaliste, ce moment-là, Fabien. C'est-à-dire que, je veux dire, aujourd'hui, si on avait un événement comme cela qui pouvait se produire, mais ça serait c'est inimaginable. Qu'est-ce qui se passe là ? Tu nous racontes brièvement ?
Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, t'as un coup de sifflet dans les tribunes.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, bah tout le monde s'arrête. Donc la France marque le but.
C'est Alain Giresse, je crois.
C'est un Bordelais, je crois. Ouais, ça, ouais.
C'est Alain Giresse qui marque.
Et en fait, le but, donc le chèque descend des tribunes, fait son cirque entre guillemets et va faire que le but va être refusé. Et je suis pas sûr que ce soit pas la dernière fois qu'il y a eu cet incident, parce que je pense pas connaître un autre. Donc voilà. Et c'est marrant parce qu'en fait le chèque à l'époque il était membre du CIO aussi. Hein.
Ah oui,
il avait fait un discours avant sur l'importance culturelle de la Coupe du Monde et l'amour sur les peuples, tu vois. Donc
c'est important de le préciser. Mais après, ce que je peux te dire aussi, c'est que pour l'après, l'arbitre, lui, il a été remercié. Hein.
C'était moins drôle pour lui.
C'était un peu moins drôle. Bon, cette image-là, je me doutais qu'il y avait un de vous qui allait en parler. Ce qui revient souvent quand on voit les photos de Michel Hidalgo, il y a plusieurs choses. Il y a la colère, il y a son polo bleu ciel là, qui est plutôt très joli. Puis alors, ce petit short, on n'en parle pas, mais alors, c'est un petit short de plage. On se dit, c'est presque lunaire de voir un entraîneur aussi en tenue comme ça, finalement, aussi légère.
Ouais, c'est vrai que ça a vraiment changé.
Ça dénote.
Ah ouais, complètement. Mais je pense qu'à l'époque, ça se faisait plutôt pas mal. Hein. Puis, il faisait beaucoup moins attention à l'image, en fait.
Oui, on faisait moins attention à l'allure. Toi, Francky, qu'est-ce qui te vient à l'idée quand je te parle de Monsieur Michel Hidalgo ?
Bah moi, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est pas forcément une image, mais c'est l'amour du joueur et l'amour du beau jeu qu'il avait. Je pense qu'il a permis à toute une génération de rendre le football au footballeur. Et
oui.
ça s'est vu à travers ses compositions d'équipe, à travers les tactiques qu'il pouvait mener, mais aussi par rapport à ses combats syndicalistes.
Oui.
Parce qu'il s'est battu pour le contrat à temps, et puis plus tard, il s'est battu aussi au niveau mondial avec le syndicat mondial des joueurs. Et je trouve que ces points-là, c'est vraiment ce qui me reste de Michel Hidalgo.
Oui, un homme de combat. Un homme de combat, et puis moi j'ai presque envie de dire, l'image que je retiens, c'est le premier tour d'honneur de l'équipe de France, c'est pour la qualification au mondial argentin, donc la France bat la Bulgarie 3-1, et il y a beaucoup de choses dans cette image. D'abord c'est la France qui gagne, qui se remet à gagner, parce que ça faisait très longtemps que nous, Français, on n'avait pas gagné, surtout en football. Il y a aussi ce Caouet. C'est finalement l'homme proche du terrain, l'homme qui est proche de ses joueurs avec ce Caouet bleu. Et puis l'homme qui, tu le disais tout à l'heure, Fabien, la colère. Mais moi, je dirais que c'est un homme qui vit ses émotions à 200%. Et là, il pleure. Et je trouve que cette image, elle est magnifique. On le voit presque comme un gosse, les mains sur le visage. Et puis, il est tout jeune. Hein. Il a, à ce moment-là, il doit avoir nos âges. Hein. On a 45 ans. Bien tassé. On ne les fait pas. Hein, c'est vrai. On
est tout jeune.
Ouais, derrière nos micros, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus jeune. Mais bon, c'est le FC Vintage. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, effectivement, c'est cette capacité à pouvoir retranscrire les émotions comme personne. C'était ça, Michel Hidalgo.
Mais ce qui est intéressant, Yolande, dans ton image, c'est de, quand on reprend dans le contexte, c'est que finalement, l'équipe de France fait un tour d'honneur parce qu'elle s'est qualifiée pour une Coupe du Monde.
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, c'est une formalité, ça montre bien à quelle place et à quel niveau l'équipe de France était à l'époque.
Oui, je me suis fait la même réflexion quand on a préparé l'émission. Je me suis dit, mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit l'équipe de France faire un tour d'honneur avec Didier Deschamps après une victoire face à la Slovénie, par exemple ? Excusez-moi pour les Slovènes, la Slovénie est une très bonne équipe, c'est...
Oui, ils l'ont presque fait. Souviens-toi, on était au stade quand ils sont qualifiés pour aller à la Coupe du Monde en Corée.
Oui.
Et ils avaient fait la fête au stade, c'était la fête.
Oui, donc, mais c'était différent,
c'était
Manu.
Différent.
Je trouve qu'il y avait un côté un peu... c'était une fête un peu, je ne vais pas dire de sénateur, mais on avait des joueurs qui étaient un peu dans la baronnie à cette époque-là. On sait comment ça s'est passé. J'ai envie de dire, en 78, c'était complètement improbable.
Et bon. De 78, c'est la dernière Coupe du Monde. Avant 78, ils avaient participé à quelle dernière Coupe
66.
Du Monde ?
66. C'était la Coupe du Monde 66 en Angleterre où ils avaient fait une apparition, tu vois, qui est très remarquée.
Tu vois, tout à fait. Ouais. J'aurais dit 58, moi, tu vois. Donc,
Non, c'est 66.
Je n'ai pas le souvenir, 66, 70, je n'ai pas le souvenir, tu vois.
Je crois même que le sélectionneur se fait débarquer pendant la Coupe du Monde, enfin, tu imagines le niveau, quoi.
Vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que Michel Hidalgo... Il n'a pas eu la place qu'il méritait au panthéon du football. Moi, quand je discute avec des gens aujourd'hui, il y a... Aimé Jacquet, Didier Deschamps. Et puis, Michel Hidalgo, il arriverait presque en troisième. Mais finalement, c'est assez rare que j'entende des personnes me dire « Ah, pour moi, c'est le sélectionneur par excellence. »
Ouais, parce qu'en fait, le présent te coupe un peu toujours du passé. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Là, on est sur des dates... où on commence à être très loin et on se rappelle toujours de ce qui est présent, mais on a du mal à se souvenir du passé, alors que moi je pense que c'était un grand monsieur et il a fait vraiment renaître le football français et peut-être que tout ce qui est arrivé derrière, c'est un petit peu grâce à lui aussi.
Tu en fait confirmes l'adage qui est c'est toujours le dernier qui a gagné qui a raison.
Voilà.
Après, tout dépend. Ça dépend. Je pense que si on demande à des vrais amateurs de foot qui ont connu cette période, qui ont connu la période d'aujourd'hui, si on fait un sondage, ça dépend. Si on fait un sondage et qu'on prend aujourd'hui une tranche d'âge, oui, si on va un peu plus loin, peut-être qu'il y aura des gens qui diront, Moi, j'aimais bien Hidalgo parce que il m'a fait rêver comment il jouait, même s'il a moins de trophées ou même s'il n'a pas gagné la Coupe du Monde.
Oui, tout dépend du prisme qui est le tien, c'est-à-dire qu'il y a deux écoles. C'est un peu comme au Brésil, tu pourrais dire je vais citer tel sélectionneur parce que
il a gagné.
Il a gagné. Ouais, mais par exemple, moi, si tu me poses la question, le sélectionneur qui, je trouve, a le mieux fait jouer ses équipes, c'est Tele Santana. Parce que à cette époque-là, le Brésil, c'était plus que Samba. C'était,
même en restant en France, si tu compares le foot d'Hidalgo avec le foot de Deschamps qui a gagné, les vrais amateurs de foot ne peuvent pas dire Deschamps me fait rêver comme il joue aujourd'hui au foot.
Mais c'est surtout Manu qu'il y a aussi un point qu'il faut pas occulter. À l'époque, si on regarde les matchs de Michel Hidalgo, c'est quasiment toujours contre des grosses équipes. Il y avait une petite équipe dans un groupe. Or, c'était soit Luxembourg, soit Chypre. Enfin, c'était souvent t'avais une petite équipe. Mais après, c'était chaud. Hein.
Après, t'avais moins de matchs aussi. Hein.
T'avais moins de matchs, mais les matchs étaient plus compliqués. Puis il y a eu l'explosion aussi des pays du bloc de l'Est. Il y a eu beaucoup plus de pays qui forcément ont aussi augmenté le nombre d'équipes. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, nous, les matchs à la télévision, les matchs de l'équipe de France, on les regarde pas. Parce que c'est un minimum qu'on demande à l'équipe de France de se qualifier. Mmh. Alors que pour le coup, je reviens à ce que tu disais, Francky, tout à l'heure, 78 tours d'honneur, c'est un exploit.
Ouais, c'est clair. Mais n'oublions pas que le foot dans les années 80, il y en a très peu à la télévision aussi.
Ouais.
C'est pas très médiatisé. En plus, les résultats de l'équipe de France sont jusqu'au début des années 80 plutôt moyens. Ça se développe vraiment après. C'est aussi pour ça que, souvenons-nous, on a fait une émission sur le foot à la télé. 84 Canal+, les exploits de Marseille, de Paris, Larry Bosman, l'équipe du dimanche. Et c'est là où les gens sont vraiment intéressés au foot. Donc c'est aussi pour ça qu'on retient plus un Aimé Jacquet ou un Deschamps plutôt qu'un Hidalgo. Si, pour moi, il est un peu le père fondateur des victoires suivantes. Quoi.
Oui, après, le fait de gagner une Coupe du Monde pour la France, c'était tellement complètement improbable. Et les émotions qui nous ont été données par cette victoire, en plus 3-0 face au Brésil, c'est quand même un truc, qu'on le veuille ou non, on sait pas, c'est pas le propos de l'émission aujourd'hui, mais ça reste. On se souvient tous où on était en 98. D'ailleurs, les gars, on était tous ensemble et on était comme des fous. On était vraiment comme des fous. Il y a un comparatif qui est très 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 intéressant dans ce que tu dis, Francky. C'est que en 84, il y a les joueurs de l'équipe de France qui veulent se réunir pour aller manger au restaurant et pour fêter cette victoire. Et il y a une cinquantaine de supporters qui sont juste à l'entrée de ce restaurant et qui disent « on voudrait voir les joueurs ». Effectivement, 50 supporters, les joueurs vont sortir et signer quelques autographes. Mais tu vois en 98 la portée que ça a pris. Oui. Ce que tu dis est juste, c'est-à-dire qu'en plus de ça, le football a pris une embellie considérable, mais c'est devenu des véritables rockstars.
Ah oui, complètement.
Alors on revient sur la carrière de Michel Hidalgo. Bon, c'est un bon joueur, un milieu de terrain, plutôt efficace parce qu'il met aussi des buts. Il a démarré sa carrière au Havre. Il a joué à Reims, dans la grande équipe de Reims, puisqu'il a fait une finale de Coupe d'Europe. Et il est allé à Monaco. À Monaco, il a plus de 300 matchs. Il a marqué aussi une bonne trentaine de buts. Et là, il est au cœur d'un football qu'on appelle le football champagne. À votre avis, est-ce que ça a influencé sa patte d'entraîneur avec un football plein de panache, plein de générosité, romantique? Est-ce qu'à votre avis, d'avoir connu le stade de Reims, Monaco, ce football-là, ça l'a influencé?
Je pense que oui. Je pense que quand tu es un joueur et que tu pratiques du football comme ça, et que tu as dû certainement prendre du plaisir à le pratiquer, il est évident que quand tu deviens entraîneur, tu as toujours des idées, des envies de partager, des envies de pratiquer ce football-là de manière à pouvoir se faire plaisir. Je crois qu'au départ, c'est se faire plaisir et par défaut, faire plaisir après aux supporters.
Mmh. Je pense que c'était un sélectionneur qui avait une vision et une et des convictions. C'est-à-dire que le football dans les années 60-70, le football français j'entends, est dans un tel trou que lui il a décidé de s'appuyer sur ce qui représente en général le sport français, c'est le panache. Le panache avant la victoire, même si c'est dans la défaite, c'est vraiment le panache. Et c'est ce qui a fait sa force en fait, c'est-à-dire qu'il n'a rien lâché à ce niveau-là. On peut prendre un exemple, hein. Dans les années 70, les équipes ont une identité assez forte. Je pense à l'Allemagne, c'est plutôt basé sur la puissance. L'Italie, c'est plutôt le catenaccio, l'Angleterre, le kick and rush, et on peut en citer d'autres. Et lui, il a décidé d'être dans le foot chevaleresque, romanesque, épique. Comme le dit Manu, justement, pour donner du plaisir aux supporters, mais donner aussi du plaisir aux joueurs, ce qui, à mon avis, a grandement joué dans les résultats.
Moi, j'y vois aussi peut-être une influence de ses origines espagnoles. C'est-à-dire qu'en fait, l'Espagne, c'est aussi un pays de football où ça joue bien au football, le collectif est souvent bien huilé. Puis à l'époque, la référence, c'est le Real de Madrid. Et pour un homme comme Michel Hidalgo, qui a connu cette période du Real de Madrid, il y a peut-être eu un effet de mimétisme.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Mais factuellement... On peut donner quand même certaines dispositions tactiques de Michel Hidalgo qui étaient quand même assez déroutantes. Bon, les trois numéros 10.
Bah oui.
C'est juste génial.
Ouais, parce qu'il a joué avec trois numéros 10, qu'on le veuille ou non.
C'est de l'innovation.
Ouais, il l'a fait un peu plus tard quand même. Il l'a fait en 80, au moment de se qualifier pour le Mondial 82.
Ouais, contre les Pays-Bas. Tu as raison, mais il a aussi joué souvent avec deux numéros 10. Hein, il a joué avec Guillou, Platini.
Je pense qu'il avait déjà cette idée dans la tête, oui.
Oui, bon, les ailiers virevoltants, souvent Didier Six et Rocheteau, ça c'était des joueurs juteux, saignants, virevoltants. Moi, j'aimais beaucoup voir ces joueurs avec leurs chevauchés, leurs cheveux longs. Ils avaient un côté un peu rockstar, c'était super. Donc, un jeu très offensif, beaucoup de passes. Il y a des matchs avec des buts. J'ai regardé, il y a assez peu de 0-0 dans la carrière de Michel Hidalgo. Et souvent, d'ailleurs, dans les matchs décisifs, les matchs importants, il y a des buts. La patte de Michel Hidalgo, c'est des buts. Et l'impression que j'ai, c'est que Michel Hidalgo, il ne voulait pas faire mourir ce football des années 50 qui était offensif et qui était téméraire, comme vous le dites, plein de panache.
Ouais, mais ça ressemblait à lui. Je pense que lui, il avait un jeu ouvert, il était axé sur l'offensive, donc après, ça lui ressemble complètement. Et en plus, je pense qu'il avait vraiment envie de, comme on dit tout à l'heure, envie de faire plaisir aux gens, de faire plaisir à ses joueurs. Et donc, ce qui fait qu'après, ce qu'il voulait, c'était alors peut-être au détriment effectivement de certains matchs où quand tu joues offensive, bah forcément, tu risques de te faire contrer et tu as peut-être plus de chances de passer à la trappe. Quoi.
Oui, on y reviendra, je pense, dans d'ailleurs, la partie 2. Ça illustre parfaitement, Francky.
D'ailleurs, il a été assez décrié hein, quand il a commencé à aligner deux numéros 10. Enfin, ça a été... ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein.
Oui.
C'est 8 ans de poste en sélection.
Ah bah, il a frôlé deux fois. Hein. Deux fois, hein. ça a été chaud. Hein.
Disons que, si pour revenir à ce que tu dis, Manu, c'est clair que si en 80, il ne bat pas les Néerlandais, pour lui, c'est terminé. Hein.
Bah, moi, j'ai même lu... que après la Coupe du Monde 78, oui. Vu le parcours qu'ils avaient fait,
oui.
Il n'était pas censé rester.
Ah ben les médias avaient même dit qu'il devrait partir à 90%. C'était même plus que ça. Donc c'est fou. Et finalement, il est resté. Donc c'est pour des raisons peut-être qu'on ignore, peut-être des raisons aussi de coût, hein, parce qu'on va y revenir justement, on va parler de ses débuts, les retours de Michel Hidalgo en tant que sélectionneur. Il succède à Stefan Kovács. Alors pour nos jeunes auditeurs, Stefan Kovács, c'est une sommité. Hein. C'est un coach roumain. Il a gagné deux fois la Coupe d'Europe avec l'Ajax d'Amsterdam de Johan Cruyff, excusez-nous du peu. Mais suite à la non-qualif de 76, c'est Michel Hidalgo, son adjoint, qui va reprendre l'équipe hein, lors d'un match face à la Tchécoslovaquie, un match qui est presque historique à plusieurs titres, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est intéressant, le parti pris de Fernand Sastre, c'est d'aller chercher Michel Hidalgo, qui en fait a été l'adjoint de Georges Boulogne. Je dis Georges Boulogne, ça fait Georges Boulogne, ça suffira. Et Stéphane Kovac, je m'enflamme là.
Mister Jones.
C'est fort Fernand Sastre ce qu'il fait à cette époque.
Et surtout que Michel Hidalgo effectivement n'a jamais entraîné avant, ne serait-ce qu'en club ou ne serait-ce qu'une équipe, une équipe une.
Alors il a entraîné une équipe à Menton. Mais tu as raison, ne mentons pas, c'est voilà. Le jeu de mots. On peut pas dire que c'était le club était une voilà. Tête d'affiche à l'époque.
Sauf que voilà, ils sont au fond du trou parce que ça fait des années qu'ils se qualifient pour plus rien du tout. Il est le second de Georges Boulogne, il est le second de Kovacs, il est même par les médias nommé le gonfleur de ballon. Au moment où il arrive, donc c'est clair que le gars, il arrive, voilà, il a beaucoup de pression, mais on voit tout
c'est,
de suite.
C'est bien joué, ça a beaucoup de pression avec le gonfleur de ballon. Ça j'aime beaucoup, Manu.
Voilà. Mais on voit tout de suite l'envie et je dirais pas l'amour, mais la passion qui va mettre pour pouvoir surmonter toutes ces futures étapes puisqu'il va rester 8 ans. Mais c'est vrai que de la part de Fernand Sastre de nommer Hidalgo, c'était assez, je trouve, assez culotté.
Francky, toi, comment tu analyses justement un petit peu cette période-là de Michel Hidalgo? Est-ce que tu penses qu'il a été un fin observateur entre Boulogne et Kovacs, qu'il a côtoyé? Comment tu vois cette période-là pour lui?
Je vois plusieurs choses. La première, c'est que de toute façon, l'équipe de France, ça pouvait pas être au plus bas à cette époque.
Non.
Comme l'a dit Manu, elle se qualifie pour rien. Les médias français se déchaînent à chaque match contre l'équipe de France, contre les joueurs qui ont une image d'enfant gâté du foot, donc comme quoi ça date pas d'aujourd'hui. Le foot est peu médiatisé et quand il y a des matchs à télé, c'est pas terrible, puisque je crois qu'ils ont perdu en match amical contre une sélection corse et de mémoire peut-être même une équipe de D2. Donc c'est pour vous dire le niveau de l'équipe de France. Je pense que ce qui le sauve, c'est que bah justement il part d'une page blanche. Et puis il y a une génération aussi qui arrive derrière grâce au travail de formation mené par Georges Boulogne. On pourra en parler peut-être rapidement tout à l'heure. On parle de Saint-Étienne, du FC Nantes et de Bastia qui vont, surtout Saint-Étienne et Bastia qui vont briller en Coupe d'Europe.
Oui, on peut en parler dès maintenant d'ailleurs, Francky, c'est-à-dire que finalement, Georges Boulogne, il va tracer les premiers sillons, poser les premières pierres de la formation à la française. C'est-à-dire que véritablement, il va mettre des fondations en place et ces fondations-là, on peut le dire, les fondations du football français, c'est Georges Boulogne.
Oui. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, au moment où Michel Hidalgo est nommé sélectionneur, il est donc l'adjoint de Kovacs, mais je crois qu'il est aussi à la DTN.
Oui, probablement. Oui,
il est à la DTN, puisque voilà, donc effectivement, c'est quelqu'un de fédéral.
Oui. Et il est nommé sélectionneur, il a 43 ans. Donc il est extrêmement jeune, hein. Il est nommé en 75, mais il fait son premier match contre la Tchécoslovaquie. Alors je vous disais que c'était un match historique à plusieurs titres. D'abord parce que c'est la première sélection de Michel Platini en 76 contre les Tchèques, donc c'est en mars.
Les Tchèques, c'est une grosse équipe à l'époque, hein. Attention. Hein.
Ah oui.
C'est pas la Tchéquie d'aujourd'hui. Quoi.
Oui, oui. Ah,
c'est ce que j'allais dire.
République tchèque.
C'est ce que j'allais dire, Francky. Les Tchèques, quelques mois après, ils gagnent l'euro. Hein.
Voilà, c'est ça.
Alors, pour nos plus jeunes qui connaissent un petit peu le football aujourd'hui, il y a un joueur qu'ils connaissent forcément, c'est Panenka, puisque Panenka s'est fait connaître avec son fameux geste éponyme. Et on a du vocabulaire au FC Vintage. et puis, c'est vrai que le premier but de Michel Platini, il est formidable. Michel Platini, il a le 8 dans le dos. Me semble-t-il, hein, il y a Henri Michel et il lui dit vas-y, tu me la laisses et je marque. Hein. Et
alors puis
il y a
des petits. Henri niveaux. Michel, c'est une sommité. Hein,
ah, c'est
à l'époque. Hein.
C'est la star.
C'est un grand joueur aussi. Oui.
C'est
oui,
une
oui.
classe extraordinaire. Et puis c'est le premier match de Maxime Bossis aussi. C'est un match. Alors. Il y a pas beaucoup de Stéphanois, je crois qu'il y en a même pas du tout, puisque je crois que on est dans les périodes de préparation des matchs de Coupe d'Europe, hein, donc c'est un match un peu comme ça pour pas pour du beurre, mais c'est un match amical. Et la France gagne 2-0. Malheureusement, elle se fera rejoindre, mais les critiques sont plutôt bonnes.
Oui, donc ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que quand tu regardes bien avec les premières sélections de Michel Platini, de Maxime Bossis, et en fait ce qui est vraiment important, c'est qu'il a fait confiance à des jeunes. Alors aujourd'hui, on connaît leur carrière forcément, hein, mais sur le moment, c'était peut-être pas évident de faire rentrer des jeunes comme ça. Hein.
Oui, il a fait confiance à beaucoup de jeunes. Alors n'oublions pas que Rocheteau était aussi jeune à l'époque, hein, parce qu'évidemment Rocheteau, on en a entendu beaucoup parler, mais les Rocheteau, les Lacombe, les Six, tous ces joueurs étaient des jeunes joueurs. Et je corrobore ce que tu dis, Fabien, c'est-à-dire qu'il a eu l'audace d'aller chercher de très très jeunes joueurs, et puis aussi de marquer une vraie rupture avec d'autres joueurs comme des anciens. Il a pas repris, par exemple, les Revelli, les Larquet. Il n'a pas été dans la facilité en s'entourant des joueurs de Saint-Étienne, par exemple. On sait qu'à l'époque, en Russie, il y avait beaucoup de joueurs du Dynamo Kiev. En général, on prenait les joueurs d'une grosse équipe. Non, lui, il a créé une mosaïque. Il a entrepris. Il a été chercher des jeunes joueurs. Il a essayé de créer une alchimie. Et c'est vrai que cette alchimie, elle a mis un petit peu de temps. Mais elle a fonctionné. Et alors justement, la transition, elle est fantastique, puisqu'elle a, elle a permis à l'équipe de France d'aller en Coupe du Monde en 78. Et
de se qualifier brillamment, d'ailleurs.
Et de se qualifier tout à fait, comme tu dis, Manu, brillamment, avec cette victoire face à la Bulgarie et ce but magnifique de Michel Platini, hein, cette frappe très très puissante du coup de pied. Il y a cette Coupe du Monde en Argentine, c'est vraiment, alors là c'est l'objectif, c'est d'ailleurs Michel Hidalgo, il a déjà la casquette Argentine 78, il est focus sur cet événement, mais alors c'est le flop.
Bah ouais, c'est le flop, il y a eu plusieurs petits accros pendant cette période.
Tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors il y a, au-delà du sportif, il y a le coup de l'affaire des chaussures.
D'accord, c'est une histoire de sponsoring, je crois.
Ouais, voilà. Les gars, ils voulaient une petite prime supplémentaire, donc ils ont barré ils ont repeint les bandes Adidas sur les chaussures et voilà. Mais là-dessus, ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il a défendu les joueurs.
Oui.
Malgré tout.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il les a défendus, puisque forcément, aux yeux des gens, c'était comment ça, encore, ils sont pas assez payés, enfin, ils sont trop payés, ils en veulent encore plus. Et lui, il a su les défendre. Donc, je pense que vis-à-vis des joueurs, alors même s'ils ne se qualifient pas pour le tour suivant, mais vis-à-vis des joueurs, je pense que déjà là, il a su les capter, et vu qu'il était avec eux, qu'il a su les défendre, donc il a déjà un petit peu englober l'esprit d'équipe qui va générer après les autres compétitions.
Moi, je suis absolument pas d'accord avec la notion de flop de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 78. Elle s'est qualifiée au forceps contre la Bulgarie et je pense qu'ils ont fait ils avaient vraiment envie de participer à cet événement. Je pense que c'est une Coupe du Monde qui est fondatrice, on le verra dans le prochain podcast, des résultats suivants. Finalement, le flop, quand on parle de flop, on parle de quoi? On parle d'une défaite contre l'Argentine qui est vainqueur de cette Coupe du Monde.
Qui gagne.
L'Italie, surtout, au départ.
Une défaite contre l'Italie.
Match contre l'Italie.
Qui finit quatrième de la Coupe du Monde. Et d'une victoire, il me semble, contre la Hongrie.
Contre la Hongrie.
Pour une équipe qui s'est qualifiée pour rien du tout depuis des années,
Ouais, qui était pas.
Pour
ouais.
moi, le flop, il est relatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, la France ferait ce parcours en équipe de, en Coupe du Monde. Oui, là, c'était un flop. À l'époque, vu le contexte, c'est plutôt pas mal. Surtout que les performances de l'équipe de France ont été saluées par les Argentins, qui ont véritablement galéré et eu un petit coup de pouce de l'arbitre pour pouvoir s'imposer.
Pour ma part, Francky, moi, je vais te dire, je suis pas certain que les joueurs soient responsables à 200% du flop. Je pense en fait qu'on a fait peur, on a fait preuve d'amateurisme. Mmh. On n'a pas été professionnel. Et j'ai, c'est factuel. Hein. Je veux dire, c'est, il me semble, c'est Patrice Rio qui raconte ça, qui dit qu'il est, ils sont dans un hôtel et c'est un hôtel dans lequel il y a l'équipe d'Italie et tout le premier étage a été aménagé pour l'équipe d'Italie. Mais les Italiens, ils sont déjà venus en, avant, en repérage, ils ont investi, ils ont transformé l'hôtel de façon à ce que véritablement les joueurs soient dans un certain confort. Et l'équipe de France, lui, il explique, on a eu des chambres qui étaient mansardées au deuxième étage et quasiment des lits militaires. Et je pense que quand on est un pays comme l'Italie et qu'on a l'habitude de faire des Coupes du Monde, on fait attention à tous ces détails-là. Et nous, Français, on avait tellement peu l'habitude de tout ça. On y est allé un peu en se disant, c'est chouette. Mais c'est pas moi qui... Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Christian Lopez. Il dit, on y est allé en touriste. Bertrand Demane dit, moi, j'ai appelé ça la croisière s'amuse. On a discuté avec Jean-Paul Bertrand Demane il y a peu de temps. Il nous expliquait qu'à un moment donné, ils vont au terrain d'entraînement. Et à ce moment-là, au terrain d'entraînement... ils sont dans le bus et ils voient un magasin avec des sacs et il y a la femme de Jean Sadoul qui fait « Oh là là, arrêtez le bus, je voudrais m'acheter un sac !» Et ah oui, ouais. Il y a les femmes de la délégation qui emboîtent le pas. Alors, autre exemple de manque de professionnalisme, il y a cette histoire des maillots, c'est invraisemblable. La France joue son troisième match face à la Hongrie et à ce moment-là, l'intendant de l'équipe de France va envoyer un jeu de maillot en France puisque bon bah l'équipe est éliminée, il reste plus qu'un jeu de maillot, ce jeu de maillot a été oublié, donc du coup catastrophe, on va essayer de trouver un jeu de maillot à la hâte, en plus de ça il y a de la circulation, il y a un club de pêcheurs là avec des maillots blancs et verts, à ce moment là ça fera bien l'affaire, on prend les maillots et l'équipe de France va jouer face à l'Hongrie et gagner 3-1, mais là encore ça marque finalement, ça dénote l'absence de professionnalisme, pour pas dire l'amateurisme de l'institution de l'équipe de France. Bon, très honnêtement, c'est pas pro. Je veux dire, c'est pas la fédération italienne ou la fédération peut-être anglaise qui aurait fait ça.
Je pense un petit bémol, Yolan, à ce que tu dis, même si je le remets pas en doute, puisque moi je l'ai pas vécu. Mais la Coupe du Monde se passe en Argentine en 78 sous une dictature terrible de Videla. C'est la Coupe du Monde, on a joué au milieu des morts. Je sais que à cette époque, il y a des politiques, des artistes, mais aussi des membres de l'équipe de France, Hidalgo, Rocheteau, Platini, qui se posent même la question, est-ce qu'on ne doit pas boycotter cette Coupe du Monde? Donc j'ai peut-être qu'il y a des joueurs qui sont allés à la croisière s'amuse, mais je pense qu'il y a aussi ils avaient conscience de ce qui se passait dans le pays. C'est pour ça que pour moi c'est pas complètement un flop. Je pense qu'ils ont fait le max avec ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils étaient. Peut-être que les conditions n'étaient pas complètement réunies, mais voilà, je relativise un peu les propos de ces joueurs. Quoi. Je suis pas sûr à 100% que... de ce qu'ils racontent.
Puis après peut-être qu'effectivement, comme tu disais Yolan, le fait que ça soit pas habituel pour eux, ils ont peut-être pris ça d'une façon un peu comme ça, brut pour plan, ça arrive, on va voir ce qui se passe, sans prendre vraiment le truc vraiment au sérieux.
Oui, après sur la politique, je suis pas forcément certain que tous les joueurs savaient véritablement ce qui se passait. Il y a Simone Signoret à l'époque qui a fait une tribune pour dire il faut pas que la France aille en Argentine. Et puis c'est Bernard-Henri Lévy qui est arrivé en Argentine et qui a demandé à certains joueurs d'échanger parce qu'il voulait leur expliquer. Alors je crois qu'il y a Baratelli, Rocheteau. et un autre joueur, ça me reviendra peut-être, qui ont désiré écouter ce que disait Bernard-Henri Lévy, et ce dernier leur a dit voilà, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, dans cette dictature. Et tu as raison, il y avait peut-être un côté bunker, parce que c'était une dictature et on pouvait pas beaucoup bouger, mais il y avait aussi finalement un côté voilà, on est qualifié dans une compétition, et je pense que je comprends un peu ce que tu dis, ils ont presque touché du doigt finalement une aventure formidable, parce que oui, c'est passé très près face aux Italiens, d'autant qu'on marque le but le plus rapide de la Coupe du Monde en 78, ça a été battu 4 ans après par les Anglais avec le but de Robson. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, la France s'est dit à ce moment-là, tiens,
ah oui, oui.
Si on bosse, on peut y arriver.
Oui, oui, ça a été fondateur. Ça, je pense que oui, oui, ça a été fondateur.
Alors, on arrive au terme de cette première, première partie d'émission consacrée à Michel Hidalgo. Tiens, question comme ça, je vous prends un peu au dépourvu, mais si on devait mettre un titre à cette première partie des années Michel Hidalgo, vous diriez quoi, vous ?
Les débuts.
Ouais. Mais tu t'es bien cassé la tête là.
Ma première pierre.
Je me noterai la prochaine fois pas démarrer par toi, Manu.
Donc tu m'as pris au dépourvu là.
Ouais.
Moi je reprendrai ce qu'a dit Michel Hidalgo, ce que j'aime beaucoup. Il a dit je n'ai jamais parlé à mes joueurs de résultats. Pensez au jeu, les résultats viennent d'eux-mêmes. Et ouais. Ça c'est un peu la philosophie et je pense que toi ça a commencé comme ça, c'est-à-dire voilà, il a dit allez, on va faire autrement. Il a changé un petit peu les choses.
Du jeu et le résultat viendra, c'est ça ?
Ouais.
Francky ?
Je valide.
Moi, je dirais le jeu par le jeu pour le jeu.
Oh, c'est beau.
Ah, c'est beau. Beau là. Ça, c'est beau.
Bah écoutez, moi, je vais vous dire un truc. L'expérience de Michel Hidalgo, je vais faire une analogie avec Star Wars. Star Wars démarre en 1977. Hidalgo démarre en 76 et le premier titre du Retour du Jedi, c'est Un Nouvel Espoir. Et je vais faire cette analogie avec, avec Michel Platini, qui sera peut-être le maître Jedi, sait-on jamais, nous ne savons pas. Mais en tout cas, moi je trouve que l'arrivée d'Hidalgo, avec cette arrivée de Michel Platini, c'est un nouvel espoir. Et justement, c'est ce que je vous propose de traiter dans cette deuxième partie d'émission, où on parlera eh ben, des années 80 jusqu'au succès de l'Euro 1984. C'était notre premier, notre première partie sur les années Michel Hidalgo. Merci les gars.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Et puis on se retrouve très 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 prochainement pour notre deuxième partie.
À bientôt.
Ciao ciao.
Bonne soirée ciao à tous.